Bonjour. Donc Stéphane Cus, je suis coordonnateur d'un deux réseaux de réussite scolaire à Saint-Priest. Voilà. Et donc Sylvie Martin-Dametto est professeure de mathématiques et formatrice au centre Michel Delay, qui est donc le centre académique de ressources pour l'éducation prioritaire. Et donc on a travaillé ensemble cette année pour accompagner une jeune collègue en grande difficulté dans sa classe avec un certain nombre d'élèves, 5 élèves on peut dire même précisément, qu'on pourrait dire en voie de décrochage, pas dire qu'ils sont absentéistes, on n'en est pas dans les mêmes processus qu'au collège, mais en tout cas qui avaient décroché de l'apprentissage en classe et qui manifestaient en classe des choses qui empêchaient le fonctionnement de la classe. Voilà. Donc on essaie de travailler avec cette collègue cette année. Alors je vais pas en dire beaucoup plus, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais vraiment sur comment remobiliser ses élèves. Et puis juste dire que la satisfaction quand même qu'on a, c'est que cette jeune collègue, d'abord elle s'en est sortie, et puis en plus elle redemande, elle a resté sur cette école cette année, donc c'est un...
Ouais, juste une petite formule, enfin, moi j'ai envie de dire que c'est une collègue qui a choisi de se concentrer sur les apprentissages pour faire école, voilà, et ça marche. Hein, mais ça correspond un petit peu à tout ce qui a été dit ce matin, voilà, on va dans ce sens-là.
C'est une école qui a une particularité, mais qui se retrouve dans beaucoup d'écoles en ZEP. C'est une école qui a subi depuis 10 ans, et ça s'est accentué depuis 2005, au moment où a été annoncée une opération de renouvellement urbain qui touche le secteur de l'école, qui subit une très forte ségrégation ethno-raciale. Voilà, je ne vais pas vous donner des chiffres précis et exacts, mais on peut dire qu'il y a à peu près 90% des enfants de l'école actuellement qui sont issus de l'immigration nord-africaine ou turque. Je vous dis ça parce que je pense que ça a vraiment un impact sur ce dont on va parler. Il faut savoir que 500 mètres plus loin, une autre école qui n'est pas classée en ZEP, on peut dire que la proportion est inverse. Voilà. Juste pour dire, on parle beaucoup de décrochage. J'entendais Madame Deria qui disait qu'il y a aussi à s'interroger dans ces processus de décrochage sur les fonctionnements institutionnels. Je pense que là, on a un des fonctionnements institutionnels, cette ségrégation territoriale qui se traduit par une ségrégation scolaire, qui est en partie à l'origine de ces processus. Voilà. Le choix des sectorisations scolaires sont bien faits par des gens. Voilà. À un moment donné, il faudrait savoir les interroger. Deuxième chose dont je voudrais parler, parce qu'en termes de fonctionnement institutionnel aussi, qui accentue cette problématique, c'est un fonctionnement, on ne peut plus institutionnel, j'allais dire presque administratif. Sur cette école en ZEP, il y a plusieurs postes qu'on appelle donc déchargés, les personnes qui sont titulaires sont déchargées pour d'autres fonctions de la classe. Sur une école comme ça, donc il y a 3 décharges complètes, c'est-à-dire que la directrice est totalement déchargée. La maîtresse animation soutien ZEP est complètement déchargée. Et il se trouve qu'il y a mon poste en tant qu'ordonnateur où moi aussi je suis complètement déchargé. Ce sont 3 postes de titulaires sur l'école qui sont chaque année remplacés par des personnes qui se trouvent être des jeunes collègues. Qui ne peuvent pas être titulaires du poste, mais en plus, on ne peut pas demander ces postes-là au premier mouvement. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a au moins 3 collègues chaque année qui tournent. Voilà. J'allais dire, c'est un fonctionnement administratif qu'on pourrait très bien, à mon avis, facilement revoir si on se posait la question de ce qu'il provoque. Voilà. Autre chose, il se trouve que effectivement dans cette école plus les enfants grandissent et plus ça devient difficile. Donc qu'est-ce qui se passe? Les enseignants qui sont titulaires, qui sont là depuis plusieurs années sur l'école, ont tendance à aller s'installer, j'allais dire, au cycle 2, classe de CP, CE1. Et on se retrouve avec un cycle 3, voilà, avec des jeunes titulaires qui tournent chaque année, qui ont leur métier à apprendre, j'allais dire de plus en plus, et qui découvrent aussi la réalité de l'école, du quartier, où j'allais dire, ils sont eux-mêmes très 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 éloignés, quand ils arrivent, de ce qui se passe sur le terrain. Ils ne comprennent pas la réalité de ce que vivent les familles et les élèves à l'extérieur de l'école. Voilà. Ils n'imaginent pas les endroits où vivent les familles. Et tout ça, ça va avoir une tendance à faire en sorte que ces jeunes collègues, pour qui j'ai beaucoup de respect, d'estime, mais ils vont avoir une tendance à se protéger en se retrouvant dans une situation d'une telle difficulté où ils n'ont pas les clés. Et se protéger, ça veut dire d'abord rendre responsables les autres de ce qui ne marche pas. Et en premier lieu, les familles. Voilà. Je pense que c'est vraiment important de comprendre ça pour comprendre pourquoi certains élèves, alors c'est pas non plus une majorité, hein, là on va parler de 5 élèves en particulier, mais 5 élèves dans une classe de 20, c'est énorme. Voilà. Par ailleurs, ces élèves sont des élèves qui sont des garçons, qui sont bougeons. Et j'allais dire, quand on n'a pas d'autres clés, c'est un peu aussi ce qui va monter petit à petit d'année en année, parce que je les connais bien, je les ai lus au CP, ces élèves. Ce qui va monter en année, c'est la centration de tout le discours qu'on a en tant que professionnel sur ces élèves, sur leur comportement. Et on va rendre responsable leur comportement de tous les échecs donc, qu'ils vont manifester dans l'apprentissage. Il se trouve que petit à petit, ils se sont réellement retrouvés en situation d'échec par rapport à l'apprentissage, de refus d'apprendre, et avec des comportements en classe où ce refus d'apprendre s'exprime même de manière, j'allais dire, presque... Il y a un refus du discours de l'école et une revendication d'un discours, j'allais dire, presque d'ordre religieux dans la classe. Voilà. On va contester ce qui est dit par l'enseignante, par exemple, en histoire ou en géographie, au nom d'une certaine lecture religieuse du monde. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est ça qui fait problème ? Bon. Alors, pour aller un peu plus précisément sur cette classe-là, j'aurais parlé de cette collègue, donc qui est une collègue qui est arrivée sur l'école en début d'année, qui est une jeune titulaire, mais par contre, contrairement aux autres jeunes titulaires de l'école, elle a une spécificité dans son parcours, c'est-à-dire qu'elle a eu une vie professionnelle avant de rentrer dans l'éducation nationale. Et j'en ai parlé un petit peu avec Sylvie, mais... Peut-être, une des hypothèses qu'on fait, c'est que ce qui l'a sauvé, entre guillemets, ce qui l'a fait se questionner, ce qui lui a permis un peu de recul, c'est peut-être d'avoir un peu ce recul-là de par son parcours avant. Je ne suis pas sûr que si c'était cette jeune collègue avait eu 23 ans, sortait de ses études, elle aurait pu avoir la capacité nécessaire. Oui. Alors, notre premier contact avec cette collègue, je veux dire, on était tout de suite dans le bain. Hein, la première rencontre qu'on a eue, donc on a pris un petit quart d'heure avant que les élèves arrivent pour commencer à discuter avec elle. Et puis on terminait notre discussion pendant que les autres collègues ont monté les élèves. Et donc on a été confrontés au moment où sont arrivés les élèves un pugilat entre ces élèves-là qui aurait pu très très vite dégénérer. La collègue a très très bien réagi, a pu les séparer, a pu les aider à mettre des mots sur ce qui s'était passé, etc. Mais on a tout de suite eu un aperçu de l'état de tension qui avait lieu dans la classe. Donc je vais passer un peu la parole à Sylvie pour qu'elle nous parle un peu plus de l'accompagnement qui s'est mis en place, qui est vraiment un accompagnement, j'allais dire didactique, et qui a été voulu comme tel par l'enseignante. C'est-à-dire, je crois qu'elle avait vraiment l'intuition que c'est en faisant mieux son métier qu'elle pouvait raccrocher ces élèves-là. Voilà. Et juste aussi un exemple peut-être avant de terminer. Ce que moi j'ai vu la première fois qu'on a assisté on a participé à la classe avec elle, c'est une collègue qui faisait les choses avec son cœur, mais les moments où ça dégénérait, où ça pouvait dégénérer avec les élèves, c'est vraiment pas pour la mettre en cause, hein, c'est parce qu'elle est jeune dans le métier, mais c'était des moments où elle faisait des erreurs dans la manière de gérer sa séquence. Un exemple voilà, qui nous a apparu la première fois avec Sylvie, c'est ils étaient sur un travail de géométrie, en train d'essayer de dessiner leur figure, et elle voulait absolument arriver à faire une institutionnalisation. C'est-à-dire faire mettre en commun par les élèves voilà ce qu'ils avaient fait, les difficultés qu'ils avaient rencontrées, etc. Mais elle n'a pas su arrêter les élèves qui n'avaient pas forcément terminé. Et elle s'est retrouvée dans une situation où des élèves continuaient. Elle était en échange de type vraiment avec un seul élève qu'elle questionnait. Et où là, il y a eu un flou qui aurait pu très 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 vite dégénérer. Voilà, juste pour dire que cette erreur-là, je pense que dans 5-6 ans, elle ne la fera plus jamais. Et je pense que du coup, avec ces mêmes élèves, si elle avait eu 5-6 ans de métier en plus, c'est une classe où ces élèves auraient continué à apprendre, où ils n'auraient pas été...
Donc en gros, voilà, ce qu'on va vous dire maintenant, c'est comment est-ce qu'elle a fait pour faire autorité dans sa classe sans faire preuve d'autoritarisme, parce que ben, malheureusement, quelquefois, ça peut être un petit peu la... instinctivement, ça peut être le choix qu'on fait, voilà, ça n'a pas été le sien. Et comment est-ce qu'elle a effectivement décidé de se centrer sur les apprentissages pour s'en sortir avec ses élèves et avec sa classe aussi, parce que finalement, la conséquence, c'était que toute la classe partait en vrille, en quelque sorte, quoi. Il y avait vraiment un souci au niveau de la classe. Donc d'abord, comment est-ce que moi, je suis arrivée dans l'histoire ? Donc moi, je suis formatrice au Centre Michel Delay, et depuis l'action formation recherche, elle est lancée depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Alors moi, je ne suis pas au Centre Michel Delay depuis 4 ans, donc c'est pour ça que je ne connais pas trop l'historique. On a un travail d'action formation recherche qu'on mène avec les RRS plutôt de Saint-Priest autour de la conscience des apprentissages. Et cette année, plus spécifiquement sur cycle 2, cycle 3 et collège, autour de l'approche des mathématiques par les problèmes. Voilà, et c'est ce qui fait que elle avait constaté qu'il y avait un moment plus particulièrement dans ces séquences d'enseignement qui était particulièrement douloureux pour toute la classe, c'était la géométrie. Le mot géométrie en soi faisait peur à ses élèves, et donc finalement, les élèves avaient une représentation de la géométrie, elle avait la sienne. Et puis, nous, on est arrivés avec la nôtre et on a essayé d'apporter un petit peu d'oxygène dans ces représentations, finalement, qui s'affrontaient un petit peu. Hein. Alors, on était sur de la géométrie plane et sur de la géométrie papier-crayon, on va dire. Voilà. Et alors, au départ, on aurait pu apporter d'autres points de vue sur la géométrie, parce que la géométrie, elle est dans la nature, elle est dans l'architecture, elle est... alors j'ai envie de dire dans différents espaces, elle est dans le plan, mais elle est aussi dans la classe, dans l'espace. Enfin voilà, il y a des tas d'approches de la géométrie, mais on a décidé de respecter la sienne, c'est-à-dire la géométrie papier crayon finalement. Hein. Voilà, dans le plan. Finalement, ce qui faisait conflit, j'ai envie de dire entre les élèves et la géométrie, c'était une certaine exigence, à la fois qu'à l'enseignante, mais que les élèves ont pour eux-mêmes également, de ce que sont les objets géométriques représentés sur papier. C'est-à-dire que finalement, on a l'impression qu'avant de rentrer dans les notions géométriques, c'est-à-dire ce que c'est que les concepts même, je dirais, ce que c'est qu'une droite, ce que c'est qu'un point, etc., eh bien d'abord, on va passer par des problèmes de motricité et des problèmes de graphisme. Et on a la sensation que tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes de motricité et ces problèmes de graphisme, on ne rentrera pas dans les concepts et dans les notions mathématiques. Voilà. Et nous, ce qu'on a essayé d'apporter, notre représentation à nous de la géométrie, c'était pas celle-là. C'était que justement, il fallait qu'on passe par les notions et les concepts, et aussi par une accroche des élèves. C'est-à-dire que là, il y avait besoin de permettre aux élèves d'accrocher à ce qu'on allait leur proposer. Hein. Donc, ce qu'on appelle la dévolution. Hein. L'idée, c'est qu'il fallait absolument que cette dévolution, elle ait lieu tout de suite pour qu'ils rentrent dans les apprentissages. Voilà. Donc ça voulait dire qu'à un moment donné, il fallait à la fois qu'on aide l'enseignante à faire le deuil de cette exigence qu'elle peut avoir sur la motricité et sur le graphisme, non pas parce que c'est pas important, hein, parce qu'à un moment donné, bien sûr qu'il va falloir travailler aussi là-dessus, mais parce qu'avant toute chose, en géométrie, on travaille sur des objets géométriques. Voilà. Et donc on a proposé un travail sur de belles figures. Voilà. Et on leur a proposé de réaliser ces belles figures. Voilà. Et avec l'idée, bien évidemment, derrière, on avait plusieurs idées. On avait l'idée que, il fallait que tous les élèves soient en réussite. Et donc, par rapport à ça, d'un point de vue didactique, on a réfléchi la chose pour que tous les élèves soient effectivement en réussite. Et puis, il fallait absolument que tous les élèves accrochent. Et donc, on s'est aidé notamment du support informatique, hein, avec un logiciel de géométrie dynamique, notamment, qui permet de faire défiler la construction des figures en permanence pour que les élèves aient une meilleure compréhension du protocole de construction, hein, somme toute. Alors, on est parti d'un objet géométrique qui est beau et que la plupart des élèves connaissent, c'est la rosace. La rosace qui permet en fait de construire l'hexagone régulier. Et toutes les figures qu'on propose, alors on l'a décomposé avec eux, on a regardé, la plupart sont construites à partir d'un hexagone régulier. Donc la première séance, c'était construction d'un hexagone régulier. Et cet hexagone régulier, je veux dire, si à la fin il n'était pas très beau, c'est pas grave parce que finalement, on les invitait à le colorier. Et une fois colorié, de toute façon, c'est beau pour tout le monde. Ils étaient tous beaux. Mais l'idée, par contre, c'est qu'on a fait un temps de mutualisation sur les difficultés rencontrées dans l'élaboration, dans la construction de l'objet. Voilà, et c'était ça qui nous intéressait. Alors, il y a eu des petits écueils quand même au moment de cette mutualisation, parce que spontanément, quand on travaille comme ça sur qu'est-ce qui s'est passé, on est forcément à la fois sur le ressentir, on est sur le but de la tâche, et puis on essaye, nous, d'amener les élèves sur les concepts. Voilà. Hein, mais l'idée, c'est que de toute façon, il faut parler de tout pour arriver à parler des notions et des concepts. Il faut bien sûr tout prendre en compte. Donc il y avait le plaisir qui ressortait. Il y avait qu'on n'était pas toujours très satisfait parce que lui, il y arrive mieux. Puis il y a la feuille qui bouge. Alors il y avait des trucs sur comment faire pour pas que la feuille bouge. Enfin voilà. Il y avait des choses comme ça. Et puis après, il y avait les points d'intersection, le compas qui sert à reporter des longueurs. Finalement, le compas, c'est un outil qui permet de reporter des longueurs, pas seulement de tracer des cercles en définitive. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont ressorties et qu'on a pu noter.
Vous complétez ce que tu dis. Il y a quelque chose qui me semble super important, c'est que tous les élèves de cette classe comme d'autres classes sont capables d'accéder à ces concepts mathématiques. Ce qui faisait obstacle pour ces élèves, ce n'était pas de l'ordre de la géométrie. Mais souvent, comme on met en préalable ce qui permet d'accéder aux concepts, on parlait des difficultés de dessin, d'application, de manipulation des outils, tous les élèves n'accèdent pas à ces concepts-là. Or, ce qui fera la différence après, au collège, c'est, à mon avis, c'est pas la maîtrise du compas, ce qui fera la différence au collège, c'est la maîtrise de ces concepts géométriques. Voilà. Donc, il me semble que là, pour le coup, l'outil informatique, c'est un moyen de rendre accessibles les concepts. Et j'emploie à dessein le mot accessible, au sens d'accessibilité. Hein. Voilà.
Alors, juste, on va pas s'étaler quand même sur la didactique, mais l'idée, c'est que la deuxième séance, elle repartait des hexagones réguliers et on avait des hexagones imbriqués qui donne une très jolie figure quand on la colorie, avec cette idée que si on dessine beaucoup d'hexagones imbriqués, effectivement, il faut être précis pour que ce soit joli, parce que sinon les tout petits hexagones, à la fin, on voit bien que ce ne sont plus des hexagones réguliers. Mais par contre, si on en fait seulement 5-6, dans tous les cas, la figure, elle reste belle. Donc, l'idée, c'est que bah, chacun pouvait faire cette figure des hexagones imbriqués à sa façon, avec son savoir-faire, et aller aboutir à une figure qui, une fois coloriée, et même une fois peinte, hein, parce que l'idée, c'est de peindre ça après en peinture repositionnable qu'on peut mettre sur les vitres. Et comme les traits de peinture sont un peu grossiers, même si on n'a pas été très précis au niveau de la motricité fine, ça donne quand même des choses qui sont bien. Voilà, on obtient une belle figure. Alors, le but de la tâche, c'est pas seulement d'obtenir une belle figure, parce que quand même, quand on a travaillé sur les hexagones imbriqués, c'est posé la difficulté de construire le milieu d'un segment, par exemple. Et on a été amené à mutualiser sur la difficulté et sur les différentes façons dont on peut construire le milieu d'un segment. Voilà. Et je pense que là, on était vraiment au cœur de la géométrie. Chacun a pu y aller de sa façon à lui, y compris par exemple en faisant tourner la feuille, par exemple en regardant par transparence ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est tout à fait recevable. Hein. C'est des marches qui sont pas forcément expertes. C'est pas un souci, quoi. Elles sont tout à fait recevables. Voilà. Donc on a réellement fait des mathématiques, on a mutualisé sur des procédures mathématiques, et à la fin, tous les élèves étaient en réussite. On avait prévu avec l'enseignante que pour certains élèves, éventuellement, on donnerait une photocopie, alors soit de un ou deux hexagones pour qu'ils puissent repartir de ça s'ils n'avaient pas réussi à démarrer, soit même d'une figure complète. Finalement, on n'a pas eu recours à ça parce que tous les élèves sont arrivés au bout. Voilà. Et alors j'ouvre un petit peu maintenant sur la suite. Après on verra si vous avez, de quoi vous souhaitez discuter. Mais quand on a préparé cet atelier avec Stéphane et quand on discute avec Caroline aussi, les questions qu'on se pose, c'est effectivement autour du faire équipe. Comment on fait équipe, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça sous-entend, et comment on fait pour réussir à faire équipe, et puis pourquoi c'est indispensable. Hein. On s'est aussi questionné autour des rituels. Parce que finalement, il y a un certain nombre... On a l'air de dire que quand on est enseignant débutant, finalement, c'est peut-être difficile de réussir dans des classes qui sont difficiles, enfin, qui sont dites difficiles. Et puis on sait qu'il y a des enseignants qui s'en sortent très très bien. D'ailleurs, cette enseignante, elle s'en sort. Hein. Aujourd'hui, elle fait autorité dans sa classe. Hein. Ça pose plus vraiment de problèmes. Alors, on se dit, il y a la part des rituels dans tout ça qui est extrêmement importante. Alors, des rituels qui portent en général sur... sur l'explicitation de tout ce qui relève des codes scolaires et qui permettent d'évacuer tout ce qui est de l'ordre du comportement pour pouvoir rentrer dans les apprentissages plus rapidement. Finalement, c'est un espace, les rituels, il faut qu'on arrive à les percevoir et peut-être à les enseigner, hein, du coup, en formation initiale et en formation continue, comme un espace d'autonomie, comme l'ouverture du champ de l'autonomie pour les élèves, finalement, pour rentrer de manière autonome dans le travail. Alors, les rituels en question, c'était la question qu'on voulait soulever avec vous parce que, on peut rentrer plus précisément dans les rituels, mais l'idée, c'était de se dire, on constate, oui, qu'il y a des rituels qui vraisemblablement aident, et quand est-ce qu'on les enseigne, quand est-ce qu'on en parle avec les enseignants en formation initiale ou en formation continue ? Voilà, ça nous semblait quelque chose d'intéressant à discuter. Et puis, quand on a travaillé là-dessus, on s'est dit que finalement, on avait fait des mathématiques éthiques. Alors, on s'est dit qu'on allait inventer le mot éthico-mathématique parce qu'on trouvait que c'était un chouette mot. Et donc, on se disait que peut-être on pourrait échanger aussi sur l'éthique et la déontologie dans l'enseignement, en formation initiale, en formation tout court, d'accord, peut-être aussi, c'est-à-dire finalement... à la fois l'éthique dans l'enseignement, mais l'éthique de la formation pour les enseignants aussi. Enfin, voilà, on avait envie peut-être de soulever aussi ces questions-là.
Pardon. Donc sur ces rituels, oui, juste dire tout ce qui concerne l'entrée dans le savoir pour beaucoup d'élèves, surtout que parfois ça se traduit par des évaluations négatives sur soi, se lancer dans l'apprentissage, c'est déjà quelque chose qui est angoissant. Si en plus on n'a pas un rituel qui pose un cadre de fonctionnement prévisible dans la classe, un emploi du temps que les élèves connaissent, maîtrisent, des manières de se déplacer, de prendre du matériel que les élèves connaissent, maîtrisent, etc. S'ils ne sont pas rassurés sur ce fonctionnement-là, ils ont énormément de mal à oser se lancer dans l'apprentissage. Sur mon école, c'était particulièrement flagrant. On a un collègue de CE1 qui est, presque maniaque de cette ritualisation, de cette organisation. Mais du coup, quand on va dans sa classe, mais les élèves, ils sont à fond, par contre, dans l'objet de l'apprentissage, parce que tout le reste, c'est maîtrisé, c'est sûr, c'est voilà. Après, se pose la question, justement, quand on sort d'une classe comme ça, de la rupture. Quand on arrive en CE2 avec une jeune collègue qui ne connaît pas l'école, c'est pour ça que c'est des choses sur lesquelles, effectivement, il y a à construire, à partager, à travailler en équipe pour construire de la continuité aussi là-dessus.
Juste dans le genre passage d'outils, puisque tu étais sur les rituels, juste un petit moment publicitaire, on travaille ici sur cet objet-là, que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà, et je voulais juste citer que c'est un outil qui peut être utilisé dans du travail ordinaire d'enseignants dans un établissement, mais même de partenaires, hein, pour comprendre comment ça marche à classe. Et on a notamment ici beaucoup de par exemple, de rituels d'entrée en classe. Donc ça marche pour le collège, c'est-à-dire non pas de dire voilà un bon ou un mauvais rituel, mais d'engager une discussion professionnelle avec les enseignants sur quand on fait ça, qu'est-ce qu'on gagne en faisant comme ça, qu'est-ce qu'on perd en faisant comme ça. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, donc peut-être que tu vas perdre 2 minutes, mais tu vas gagner ça, ou peut-être qu'au contraire, ben, y en a d'autres qui font d'une autre façon, etc. D'outiller ces petits moments et de ne pas confondre, le maintien de l'ordre et de voir comment très vite on peut mettre ça au service d'instruments didactiques. Et juste pour vous dire aussi que on prépare aussi, on a plusieurs thèmes là-dessus, mais sur la question par exemple, de l'organisation du travail personnel, on a tout un tas de rituels qui sont visibles dans cette plateforme-là, et on va avoir bientôt des ressources sur les rituels en maternelle, qui sont aussi des choses qui sont très importantes, les rituels dans la classe à cours double, qui sont par exemple pour les gens qui travaillent sur le primaire, voilà. Par contre, ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est que vous êtes parti de ces 4-5 élèves qui sont vraiment les plus en vrac. Ce qui peut-être vaudrait le coup, c'est que peut-être vous l'avez prévu, mais que vous nous disiez ce que vous avez vu bouger pour ces élèves-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on dise que voilà, votre dispositif didactique, il a l'air plus intéressant, plus motivant, plus mobilisant intellectuellement. Il y a le défi du savoir qui est là. Mais parfois, on critique aussi les théories pédagogiques au sens où on dit, bah, par exemple, les situations problèmes, les pédagogies inductives, elles sont difficiles pour les élèves en difficulté. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ça, dans ce cadre-là, avec ces élèves-là?
Ouais, alors je reviendrai du coup après peut-être sur les rituels, mais effectivement, donc un témoignage par rapport à ça. Moi, lors de la deuxième séance que j'ai pu observer, on avait fait des îlots de travail. Les élèves étaient par 4, et sur les 5 élèves qui posaient problème, il y en a 4 qui se sont mis à la même table. Et très rapidement, au bout de 3 ou 4 minutes, il y en a 2 qui ont dit s'il vous plaît, maîtresse. S'il te plaît, maîtresse, qui tutoie la maîtresse, est-ce qu'on peut changer de place, puisque là, on n'arrivera pas à travailler.
Ils ont plus de mal, mais ils vont s'adapter.
Oui, ils s'adaptent.
Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que la dévolution se fait naturellement. Moi, je pense que la dévolution, elle se fait facilement parce que le contrat didactique est très clair. Voilà. Et il est très clair. Alors, effectivement, ça me permet de rebondir sur les rituels. Moi, j'ai quand même envie de dire attention aux rituels sociaux. Attention, il y a un vrai danger. Est-ce qu'on fait autorité parce qu'on a des rituels sociaux, ou est-ce qu'on fait autorité parce qu'on est très très clair sur les enjeux de savoir, hein, et que du coup on a des rituels qui sont davantage des rituels organisationnels qui permettent une plus grande autonomie dans le travail. C'est-à-dire que effectivement, il y a un vrai stress quand on rentre dans une classe, parce que finalement, il y a des interdits, il y a des choses autorisées. Il y a aussi peut-être qu'on est évalué, parce que finalement, en classe, des fois, on est évalué sans que ce soit dit. Il y a un grand stress quand un élève rentre dans une classe. Et finalement, si on a un contrat didactique qui est très clair, on a donc des rituels organisationnels qui sont très clairs. Les élèves savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent savent pas faire. Et si l'enseignant a aussi en tête des choses très claires sur les enjeux de savoir, ça permet de rentrer tout de suite dans l'activité. Et je dis pas qu'il faut pas de rituels sociaux, mais je ne suis pas sûre que ce soit avec les rituels sociaux qu'on fasse autorité.
Alors moi, je voudrais faire part d'une expérience donc qu'on mène dans le cadre d'un groupe de recherche en algèbre sur l'enseignement de l'algèbre au collège, et où alors on travaille sur ce qu'on appelle la mise en train. Alors train, ça signifie travail de recherche en autonomie avec prise d'initiative. Donc on fait ça en mathématiques et on mène cette expérience sur pas énormément de collèges, mais sur 5 collèges, certains étant en éducation prioritaire, un autre en centre-ville, et puis d'autres en prévention violence. Donc voilà, on a quand même un petit panel de différents collèges. Et quand les élèves rentrent en classe, il y a une activité mathématique qui est proposée. Alors, bien évidemment, en général, la passation de consignes est assez simple, assez courte, hein, pour que les élèves se l'approprient rapidement. Et il n'y a pas de rituel de socialisation, je dirais. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que on a des élèves qui rentrent en classe, qui effectivement n'enlèvent pas le blouson, voire même qui restent debout et qui lisent la consigne et qui commencent à y réfléchir. Et puis on en a d'autres qui rentrent et puis qui commencent à demander aux copains comment c'était hier soir. Et puis on en a d'autres qui rentrent et qui sortent leurs affaires. Voilà. Et on sait que, enfin, les élèves savent, parce que le contrat didactique est clair, justement, que au départ, il y a, en début d'heure, il y a 10 minutes qui sont consacrées à cette activité. Voilà. Et ensuite, il y a une mutualisation des procédures et des réflexions autour de cette activité. Voilà. Et finalement, donc on expérimente ça depuis déjà maintenant 3 ou 4 ans sur les établissements en question, et on constate que l'entrée en classe se passe très très bien. Et on rentre directement dans les apprentissages. Voilà, c'est ça la différence. Enfin, c'est ce qui nous semble vraiment important. Alors là encore, hein, on est vraiment dans le domaine des convictions. Il nous semble que si on va mettre nos élèves, on va faire école, j'ai envie de dire, en rentrant tout de suite dans les apprentissages. Voilà. Et ça fonctionne. Enfin, voilà, ce qu'on observe, c'est que ça fonctionne assez bien. Alors après, il faut voir comment on met ça en relation avec les programmes, etc. Je vous passe un petit peu sur les choses, mais voilà, on rentre tout de suite dedans et ça marche très très bien.
Mais c'est-à-dire le rituel là-dessus, le rituel, il peut tout à fait, à mon avis, s'installer dans ce qu'on voit là. Hein, si vous, par exemple, si vous regardez au tableau, là, c'est un collègue qui est très chahuté dans son environnement de classe. C'est-à-dire que, en gros, il a cette situation-là quand il rentre en classe. Hein, je vous passe les vidéos, mais il a cette situation-là quand il entre en classe et il va progressivement, complètement modifier sa façon de rentrer en classe parce que il voit un autre collègue, par exemple, qui lui, dans un endroit qui est très très difficile. Hein, un des endroits les plus difficiles de France au niveau scolaire. Et ici, vous voyez où il est, il distribue la tâche directement à la porte. Hein, c'est-à-dire que là, les gamins ils rentrent et etc. Il a pas beaucoup négocié. Hein, il y a eu plus du maintien de l'ordre. Pardon. Il y a eu plus du maintien de l'ordre qu'autre chose. Mais donc. C'est pas parce que le contrat didactique a pas été super bien posé que ça se passe pas. Même dans une situation de conflit, il va arriver à modifier. Et vous regarderez dans la plateforme, ce même collègue qu'on a vu en très très en difficulté, vous allez le retrouver 6 mois plus tard dans une situation où il va distribuer une tâche comme le faisait son collègue directement à l'entrée de la classe. Non pas pour dire voilà la manière didactique, hein, parce que didactiquement il y aurait beaucoup à discuter de leur manière de faire. Et là, ce qu'elle nous a expliqué, c'est sur par exemple un principe didactique qui est vraiment intéressant. Mais on pourrait aussi le voir filmé avec une collègue qui va en début de séance dire moi je fais une dictée à trous. Vous avez eu 10 mots à apprendre et même en milieu très difficile, elle fait une dictée à trous. Où il y a 5 mots qu'il fallait apprendre et elle fait sa dictée à trous et elle ramasse et elle note. Et moi, j'ai vu quelque chose qui a l'air, alors pour le coup, didactiquement incorrect, mais qui va susciter de la mobilisation parce que les élèves réussissent à le faire. C'est-à-dire que le contrat, c'est tu apprends tes 5 mots, tu les mets dans les trous et tu commences avec ça. Eh bien, cette collègue-là, enfin, quand on en discute avec un inspecteur, peut-être qu'il va dire c'est pas ça qu'il faut faire parce que c'est pas bien. Mais en tout cas, elle enrôle ses élèves tout de suite et après elle passe à autre chose. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir des espaces professionnels où on va discuter de ces choses-là, discuter de ces manières de faire, non pas pour chercher la norme en disant si vous mettez deux doigts, alors vous allez réussir à mettre les élèves, mais par contre c'est de se dire et toi tu fais comment, et toi tu fais comment, et toi tu fais comment. Et ça, c'est des espaces, enfin tu l'as dit tout à l'heure, la collègue, elle n'arrive pas à l'avoir dans son école. Il a fallu qu'elle fasse appel à vous pour avoir ce principe de distance, quoi.
Juste pour parler un peu de cette histoire de travail d'équipe qui s'est construit en dehors de l'école, ça me semble important d'en dire deux mots parce que on a parlé de l'éthique de la collègue qui lui a permis de rebondir. Moi, j'aimerais quand même dire deux mots de l'éthique de l'accompagnement qui a eu sur la Circo par rapport à cette collègue et par rapport à plein d'autres collègues. Une des premières fois où Patrick a vu notre fonctionnement à Saint-Priest, ce qu'il a vu, c'est un formateur du Centre Michel Delay, notre inspecteur de l'éducation nationale, la conseillère pédagogique, ainsi que moi, on s'est rendu, dans le cadre de cette action formation recherche la conscience des apprentissages, dans la classe d'une collègue, de plusieurs collègues dans une école ce jour-là, au service d'un questionnement que ces enseignants s'étaient construits. On avait une problématique un peu globale sur la formation que chaque enseignant s'est réappropriée sous la forme d'un questionnement. Et on se retrouvait tous, de sa position, mais au même niveau, après avoir assisté à ce temps de classe, à essayer de réfléchir à cette question, à ce problème que se posait l'enseignante. Et où personne ne prétendait avoir une réponse, mais où on a essayé de dégager des pistes. Voilà. À ce moment-là, y a eu, pour moi, vraiment, y a des moments comme ça où on sent que les gens font équipe, quel que soit leur métier, et où l'inspecteur, qui reste l'inspecteur, il peut aussi se coltiner avec une collègue un problème qu'elle se pose. Voilà. Et je crois que ces moments-là ont construit aussi sur la circonscription un rapport de confiance dans le travail. Qui permet une sérénité, qui permet aussi aux gens de dire quand ils ont des problèmes, parce que quand on est dans un climat où il n'y a pas cette confiance, on ne dit pas qu'on a des problèmes, on reste avec, on se débrouille avec. Voilà. Et ça me semble quelque chose d'important quand même à souligner, cette question de l'éthique de l'accompagnement formatif.
Alors, juste moi, je voudrais peut-être ajouter une petite chose. Dans le cadre des actions formation recherche, ce qu'on appelle les AFR au Centre Michel Delay, en général, on part effectivement d'une question de travail, hein, d'une problématisation qu'on formule sous la forme d'une question unique et on travaille là-dessus. Et après, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, on réfléchit à la question en termes de co-enseignement. Et la posture qu'on a, nous, dans la classe de la collègue, par exemple, hein, c'est pas qu'on est au fond de la classe et qu'on lui donne des conseils. On est dans une situation de co-enseignement. C'est-à-dire qu'au départ, elle nous dit c'est elle qui a choisi de travailler la géométrie. Après, on apporte notre regard à nous et le sien, on fait ensemble, on a une réflexion didactique ensemble, mais après la mise en œuvre dans la classe, on la fait ensemble aussi. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est sa classe, elle est là en tant qu'enseignante, mais on se répartit un petit peu les tâches, et puis après on fait aussi un petit peu comme on le ressent, mais on est réellement dans du co-enseignement, avec effectivement, il n'y a pas de prise de notes, il n'y a pas de choses comme ça, il y a un échange à la fin. Hein, et en aucun cas, on ne se permet d'être sur le « t'aurais dû faire » ou « t'aurais pas dû faire ». Hein, on est réellement dans le, on s'est tous retroussé les manches, on était dedans, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Et en même temps, on sait très bien que quand on est dans cette dans des protocoles de travail comme ça, finalement, tous autant qu'on est en tant que professionnel, on prend du recul parce qu'on peut le faire justement, parce qu'on est plusieurs, on prend du recul, on s'observe en train de travailler et quelquefois on perçoit des choses, des gestes professionnels qui sont en acte et qu'on ne percevrait pas si on était seul dans la classe. Et c'est un des enjeux aussi de l'action formation recherche, hein. C'est réellement de passer du geste en acte au geste réfléchi et de se dire pourquoi est-ce que ce geste-là, justement, pourquoi est-ce qu'il est adapté à ce moment-là ou pourquoi est-ce qu'il n'est pas adapté à ce moment-là. Là, concrètement, on est parti du diaporama, en fait, avec les belles figures. Et puis, on leur a dit, voilà, ces belles figures, vous allez les réaliser. Hein. Ça ne va pas se faire en une séance, mais on va faire en sorte, tous ensemble, de les réaliser. Voilà. Et puis, on leur a dit, aujourd'hui, on va commencer à travailler sur une figure particulière, tous la même. Là aussi, hein, alors, bien évidemment, ces choix-là, on les a réfléchis, parce qu'on aurait pu imaginer que chacun travaille sur la figure de son choix. Voilà. L'idée, c'est d'y arriver à ça, à ce qu'à un moment donné, on reprenne le diaporama et que chacun se dise, moi, je vais travailler sur celle-là, s'empare de la figure en question et réfléchisse à comment elle se décompose. Parce que, c'est extrêmement intéressant, hein, décomposer une figure géométrique en éléments simple, établir une chronologie de la construction de cette figure-là, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Hein. Mais l'idée, c'est d'y aboutir. Alors, d'y aboutir de façon extrêmement modeste, parce qu'on est en CM2, et puis après, d'aller plus loin sur les années de collège et éventuellement les années de lycée. Hein. Donc, on est parti du diaporama pour leur faire envie. Hein. Et puis après, on est parti de la rosace et du support du logiciel GeoGebra. C'est-à-dire que on leur a montré étape par étape comment est-ce que ça se construisait. Et puis on leur a donné également le texte de comment est-ce que ça se construit étape par étape. Et puis le protocole dessiné tournait en boucle au tableau. Voilà. Et à partir de là, les élèves avaient la feuille, les outils, et puis se lançaient. Et nous, on circulait dans la classe.
Si je peux dire quand même deux choses, moi, j'ai entendu quelque chose qui me semble très, très, très important. Là, pour l'instant, on a parlé, j'allais dire, de la dimension accompagnement presque personnalisée, individualisée d'une enseignante. Il y a un autre enjeu dans la manière dont on essaye de concevoir alors l'action formation-recherche, mais les formations en général. C'est comment après, avec quelques enseignants qui sont portés volontaires, qui ont osé dire j'ai un problème, j'ai une difficulté, etc. Comment on arrive à faire équipe avec les autres, hein. Et c'est-à-dire c'est une question jamais résolue et qu'il faut sans cesse remettre sur le tapis. Comment on fait équipe avec tout ça? J'allais dire, ce qui pour moi a le mieux marché dans ce qu'on a fait, c'est quand c'est le collègue qui a été accompagné qui devient le porteur d'une équipe. Et on a pu arriver il y a deux ans à un forum où il y avait les 90 enseignants du premier et second degré des deux réseaux qui ont partagé ce que quelques-uns avaient commencé à initier dans leur classe avec les formateurs. Et je pense qu'on a réussi sur ce moment-là à créer les conditions de la mutualisation, les conditions d'une utilisation qui problématise les choses. Et du coup, où chacun ose me dire, voilà, il y a des choses qui me posent problème, et je peux échanger avec mes collègues pour avancer. Voilà. Mais je suis vraiment d'accord. C'est à chaque fois, c'est un combat pour arriver à faire à faire équipe autour de ça. Je crois que Mme Morel parlait de priorité. Je veux dire, qu'est-ce qui nous permet de définir ces priorités? Et comment on les a définis nous localement. Je crois que clairement, ce qu'il faut qu'on arrive à mettre sur la table et à se dire que c'est ça qui doit faire l'objet de notre réflexion collective localement, mais à mon avis à d'autres niveaux aussi, c'est comment et par quel processus l'école produit de l'inégalité et du coup produit de l'exclusion pour certains et de la sélection pour d'autres. Voilà. Je terminerai peut-être là-dessus, mais on a pu, au mois de février dernier, faire une soirée pendant 3 heures avec les 140 enseignants du réseau de la maternelle à la troisième, où on a parlé pendant 3 heures de la production de ces inégalités à travers les processus de discrimination à l'école. Et je crois que c'est en acceptant aussi de mettre sur la table nos pratiques, qu'on arrive à voir quels sont les vrais problèmes qu'on peut traiter. C'est parce que si on externalise le problème, si on le renvoie sur le dos des familles, du contexte économique, etc., mais quel est notre pouvoir d'agir? Alors que quand on se penche sur la manière dont notre propre institution fonctionne et produit de l'inégalité, on retrouve des priorités.
Alors oui.
Je pense qu'effectivement, c'est très important de le préciser, parce que quand on construit une formation dans le cadre d'une action formation recherche, on la construit entièrement, c'est-à-dire qu'on la construit en termes d'étayage, donc on conçoit le début, on conçoit le contenu, mais on conçoit également le désétayage. Hein. Donc là, ça a commencé il y a 4 ans, et le désétayage...
Le désétayage, on va dire qu'il se fait, j'allais dire, de manière aussi... Cet accompagnement, il dure aussi parce qu'on ne touche pas à chaque fois non plus les mêmes enseignants. Voilà. Donc le désétayage se fait parce que ceux qui ont été accompagnés ne ressollicitent plus. Par contre, ce qu'a pas dit Mme Morin-Morel, mais sur le collège, et c'est aussi valable sur les écoles en question, il y a chaque année à peu près un tiers des enseignants qui se renouvellent. Voilà. Donc j'allais dire, on désétaye pour certains, mais il faut réétayer pour d'autres. Voilà.
Et juste, alors c'est vrai que là on essaye actuellement au Centre Michel Delay d'être, de concevoir les actions formation recherche de façon un petit peu plus cadrée, et on essaye de concevoir étayage, désétayage dans un contrat de 4 à 5 années. Voilà, actuellement. Et juste, je voudrais revenir sur la problématique de l'évaluation, parce que je pense qu'elle est fondamentale. Alors l'évaluation, bien évidemment, elle se réfléchit au niveau national et puis après au niveau local, et elle se réfléchit aussi dans la classe. Et puis au niveau de la société aussi, et c'est bien ça, elle a une place énorme dans la société. Mais je pense qu'à un moment donné, si chaque enseignant, et là on est encore sur le professionnalisme, si chaque enseignant arrive à, dans le cadre du contrat didactique, à donner sa place et seulement sa place à l'évaluation, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de simple. Hein. Voilà. Parce qu'il y a aussi tout le poids de l'évaluation dans la société, enfin le poids culturel de l'évaluation. Hein. Non, mais bien sûr, dans l'école, dans notre vécu d'enseignant, parce qu'on sort de l'école, effectivement, donc on est à fond là-dedans, d'accord ? Mais si, effectivement, à un moment donné, en termes de professionnalisme, on arrive à réfléchir l'évaluation comme un élément à sa mesure, dans le cadre d'un contrat didactique, ben peut-être qu'on arriverait à... Ouais, enfin, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a une véritable révolution à opérer au sein de l'institution par rapport à l'évaluation, effectivement. Effectivement, je pense qu'on a besoin d'outils et de formation par rapport à ça, parce que quand on prend l'exemple du socle, moi je voudrais juste dire une chose, mais quand on valide ou qu'on invalide des items, je veux dire, on a 5 possibilités, hein, d'accord ? On divise 20 par 5. D'accord ? Et ça fait 4 points pour chaque possibilité, et on repart sur les notes et on repart sur des moyennes. Et on est sur des moyennations, de toute façon, hein, quand on calcule, quand on se dit, bon bah finalement, est-ce qu'il a la compétence ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? On compte le nombre d'items. À 80% des items, on valide. On est sur des notes, hein. Faut pas se leurrer. Donc, effectivement, il y a une révolution à opérer, mais pour ça, on a effectivement peut-être besoin d'outils, de formation, de penser autrement. On est quand même dans un modèle de pensée qui est très, très fortement influencé au niveau de l'évaluation.